Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
C'est une autre édition de Peut contenir des infos qui commence à l'instant, mesdames, messieurs. Bienvenue. Installez-vous confortablement.
Mais là, t'as pas de mots.
Ah, tu voulais que j'aille un mot du jour?
Ben là.
Ben pas forcément, j'en ai pas tout le temps nécessairement. Quand je me sens inspiré ou quand on est dans une émission comme celle-ci où on va avoir beaucoup de contenu cette semaine.
Okay.
La semaine passée, on était parti là sur une cheer, là, on allait à gauche à droite.
Ouais, c'est ça,
parce que c'était la première de la saison.
Oui.
Alors il fallait installer un petit peu nos affaires.
Mais j'aurais aimé ça que tu utilises souris.
Ah, comme souris d'ordinateur,
ouais,
par exemple. Souris d'ordinateur.
Ouais, parce qu'elle est en avant de moi, là. Fait que, tu sais, je me disais, ben, peut-être que Simon va arriver avec,
Je souris à la vie à chaque fois.
Et voilà. Et
je
voilà.
Je souris à la vie à chaque fois que j'ouvre le microphone.
Là, je me sens mieux, merci.
Peut contenir des
infos. Oui, là, je me sens mieux. On va avoir une meilleure émission.
Tu es de bonne humeur?
Non.
Non.
Et toi?
Oui, ben non, ça va très bien.
Tu souris à la vie.
Je souris à la vie avec la souris d'ordinateur sur le...
C'est ça.
Sur le bureau. Nous aurons cette semaine une entrevue dans la deuxième portion de l'émission avec...
Avec Marcel Aymard, qui va venir nous parler du CMA.
Le Congrès mondial acadien.
Oui.
Parce que le compte à rebours est enclenché bel et bien maintenant, là.
Et
à moins d'un an.
À moins d'un an, effectivement. Et notre grand ami Marc Bouchard.
Oui, monsieur le Gotchard.
Le Gotchard, qui va venir nous parler de voitures. Et on va aller en Chine, mon cher ami.
Oh, OK. Alors, on surveillera ça. Et ça, ça va être dans après la pause
De
la demi, okay. Oui. Puis sinon, toi, écoute, moi, j'avais à voir pour notre quiz de moins quart.
Oui. OK.
Je vais te ménager là quand même. Je serai pas trop méchant. Je vais faire un petit quiz sur les océans.
Ben oui, toi, les océans.
Non, mais tu vas voir. Okay, non, c'est puis tu vas avoir un choix de réponse en plus de ça.
Ah, OK, un choix de réponse.
Ben oui.
Ah, OK, fin de même. Ah, ben là, t'es fin.
Parce que dans ma tête, faut toujours que je pense que j'ai non seulement mon collègue qui est avec moi, avec lequel je dialogue, mais il y a des gens d'un peu partout.
Qui jouent aussi, là.
Des dizaines de milliers de personnes à travers le pays au complet, parce qu'on est, écoute, de la côte ouest à la côte est canadienne.
Je pense que c'était des centaines de milliers, mais en tout cas.
Bon. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent à quelque part en Chine.
C'est ça, exactement. Oui, on est entendu de par le monde.
Veux-tu commencer ou tu veux que je
commence? Je vais te laisser y aller, mon cher ami, parce que je pense que tu vas nous parler de la saison qui s'en vient, toi.
Oui, 5 choses bonnes à savoir sur l'automne ou en lien avec l'automne.
OK.
Alors, je commence d'abord en vous disant que le mot « automne » vient du latin. Oh, surprise! Pas mal d'affaires en français qui viennent du latin.
Oui.
Là. Alors, ça vient du latin « autumnus ». T'aimes ça hein, quand je prononce d'autres langues ou quand tu sais du latin?
T'as presque pas d'accent. C'est vraiment beau.
Alors, « autumnus » ou « octumnus
», okay.
Et ça, c'était entre autres le nom d'une divinité de l'époque antique. Autumnus, c'est le dieu de l'automne. On parle aussi d'Autumnus comme étant le dieu des récoltes.
Ah, mais voilà.
Donc, on n'a pas sorti le nom automne de nulle part.
On n'a pas mis
des noms d'un chapeau, puis on a dit, on va choisir un mot.
OK.
Ça commence quand l'automne? Ça commence avec l'équinoxe.
Oui.
Tu te souviens, on avait parlé d'équinoxe puis de la saison dernière.
Oui.
Alors, l'équinoxe va se produire cette année dans la nuit du samedi 23 septembre 2023. Et tu te souviens-tu de ce que c'est l'équinoxe? Je vous l'avais expliqué le printemps dernier. L'équinoxe, on en a parlé, c'est le moment où la durée du jour équinoxée, c'est la durée du jour va être égale à la durée de la nuit.
OK.
L'automne, est-ce que les feuilles changent de couleur?
En fait, moi, je te dirais non.
Voilà.
Je te dirais non parce que ça a déjà commencé.
Non, les feuilles ne changent pas réellement de couleur l'automne, et je vous explique pourquoi. En fait, c'est qu'elles vont révéler leur vraie couleur. C'est ça la patente.
Hein?
Ouais, l'automne, la chlorophylle...
C'est comme ils mûrissent, genre.
Et je t'explique.
Okay.
La chlorophylle,
La
chlorophylle, c'est ce qui sert à faire de la photosynthèse.
Mm-hmm.
Et c'est ça qui donne la teinte verdâtre aux feuilles. Et l'automne, quand il commence à avoir moins de lumière... moins de chlorophylle.
Okay.
Donc, c'est comme si la couche de peinture s'écaillait sur ton char, comprends-tu? Et qu'on voyait à travers la vraie couleur des feuilles qui apparaissent. Donc, ça n'a rien de magique, là.
Ah.
C'est quelque chose de biologique. Ouais. la perte de la chlorophylle va faire apparaître d'autres pigments qui sont déjà présents dans la feuille,
oui,
comme par exemple les caroténoïdes. Je l'ai pratiqué un petit peu. Ça, ça c'est la couleur qui est plutôt jaune ou orangée. Okay. Et les anthocyanes, ça, c'est la couleur plutôt rouge. Et quand les feuilles perdent la chlorophylle, oui, on voit apparaître ces autres pigments-là qui sont toujours présents, mais qui sont cachés un petit peu en arrière de la couche de peinture verte.
Ah, OK. Ouais, c'est ça, je comprends. Merci.
Alors, voilà.
Merci, Simon.
Ça fait plaisir, François. Je vous ai dit 5 faits.
Oui.
Quatrième, pourquoi les feuilles chutent en automne?
Eww.
Ben, l'arrivée du temps froid, entre autres choses, et les journées qui raccourcissent. Alors, on l'a dit tantôt, les feuilles perdent la chlorophylle, donc elles font plus de photosynthèse. Et là, ben, comme ça disparaît des feuilles, plus besoin de feuilles, l'arbre va s'en débarrasser à toute fin utile. C'est comme une espèce de petit bouchon de liège.
Okay.
Non, vraiment, qui va se faire à la base de la feuille.
Oui.
Puis là, ben, elles sont plus alimentées, puis elles peuvent, tu sais, le voyage fait plus d'un bord à l'autre. Arrêtons. Avec le vent et tout ça, c'est un petit peu.
Fait que l'arbre se protège.
C'est une façon de se protéger, de justement, comme tu le dis. Donc, elles vont se dessécher, elles vont tomber, elles n'ont plus besoin, tu sais, elles sont plus alimentées et l'arbre, il n'y a plus comme une espèce de symbiose entre l'arbre et les feuilles et tout ça. Alors, ça permet en même temps à l'arbre de préserver ses ressources en eau qui, autrement, pendant la belle saison, vont dans les feuilles. Les feuilles dessèchent puis elles tombent avec le vent et tout ça.
C'est-tu beau, la nature?
C'est bien fait pareil.
Mais, hein, que c'est bien fait.
Alors, vous saurez que la raison pour laquelle les feuilles tombent, c'est que l'arbre se protège en quelque sorte l'automne.
Hmm.
Et l'automne a un effet aussi particulier sur la faune, et je conclurai avec ça. La saison d'automne, ça donne, entre autres, aux oies migratrices le signe que c'est le temps de partir, les filles. Hein? Non, mais c'est ça pareil.
C'est le temps d'aller vers le sud.
C'est le temps de s'en aller dans le sud. Fait. Les écureuils, ce qu'ils vont faire, les écureuils? Ils vont faire du stockage.
Oui.
Ils vont commencer à stocker. C'est la saison des amours pour les cerfs.
D'accord.
OK, on ne sera pas d'image, là. Mais les mâles ont plus de testostérone.
Ben oui.
Ils commencent à se battre.
Mm-hmm.
Comprends-tu?
Ben oui.
C'est ça, c'est l'automne, ça a des effets jusque sur la faune.
Okay.
Et pour les arachnophobes, et je conclurai là-dessus.
Ouais, ouais, vas-y.
Sachez que les araignées sont aussi beaucoup plus actives en automne.
Ah ouais?
Ouais. Parce que là...
C'est vrai qu'on les voit moins en été.
Elles vont se faire un petit abri pour l'hiver.
Ouais.
Et vous pourrez voir probablement plus de toiles d'araignée durant la saison morte qu'on appelle ou l'automne parce qu'elles commencent justement à s'activer un petit peu pour se préparer pour l'hiver. Fait que si vous entrez dans le garage là que vous avez pas été de l'été là ou je sais pas trop, puis vous commencez à pogner de la toile d'araignée.
Okay.
C'est ça.
Mais moi j'en vois plusieurs durant l'été des petites araignées. En fait, elles ne sont pas petites, c'est des araignées d'eau. En dessous du quai ou...
Oui.
C'est énorme.
C'est énorme.
C'est énorme.
Okay.
Ils sont laites.
Non, ils sont pas belles. Ouais,
c'est... Ah non, non, ça c'est vraiment... Tu te souviens-tu du film Arachnophobia?
Eh mes aïeux. OK, on arrête ça là.
Oh, ouais, ça,
je suis pas arachnophobe.
Celle-là m'a donné des nuits.
J'ai pas peur nécessairement de ça, mais mettons que je cours pas après.
Contenir des infos.
Moi, je vais te parler des orages d'été. Mais les orages d'été 2023. Parce qu'on a eu un méchant spectacle cette année. En tout cas, pour ce qui est de la capitale nationale, on a eu un méchant spectacle.
Ah, il y a eu du monde qui en a eu aussi des shows.
Oh, oui. Il y en a eu des shows un peu partout au
Canada. Son et lumière, là, puis c'était assez impressionnant.
Absolument. Ouais. La science derrière les éclairs est assez intéressante, mon cher ami. Pour qu'un éclair se produise, et là je vais me transformer en météorologue, des charges positives et négatives doivent se séparer à l'intérieur du nuage. Donc, les courants ascendants et descendants d'un orage créent le milieu idéal pour séparer les charges électriques à l'intérieur du nuage. Les charges négatives se concentrent près de la base du nuage. Tandis que les charges positives s'accumulent dans la partie supérieure.
Ah, ça, c'est comme les pôles d'un aimant, là, à toute fin utile, là. Il y a un positif puis un négatif, là, tu sais.
C'est un peu ça? C'est à peu près ça, oui.
OK.
Les éclairs entre deux nuages sont les plus courants, se produisant entre 3 et 5 fois plus souvent que les éclairs nuage-sol. Donc, ces derniers, les éclairs, sont toutefois plus dangereux pour les gens. On parle des éclairs nuages sols.
Oui, oui, oui. Okay?
La nature est, bien entendu, le réseau d'électricité. L'éclair nuage sol est en effet la décharge électrique qu'on voit se déplacer entre les nuages et le sol.
Mm.
Autrement dit, on appelle ça comment? La foudre.
Ah oui, la foudre.
La foudre. Les éclairs se déplacent en réalité vers le haut à partir du traceur ascendant situé près du sol, plutôt que vers le bas.
J'avais cru comprendre, effectivement, qu'on avait l'impression que ça tombait, mais que c'est plutôt de l'inverse.
C'est l'inverse.
Wow.
Le phénomène se produit si rapidement qu'on a l'impression que l'éclair se déplace des nuages jusqu'au sol, mais c'est bel et bien le contraire qui se produit.
Oui, parce qu'à la vitesse de la lumière, effectivement,
effectivement, on le voit pas. C'est ça. La foudre peut frapper au même endroit précis deux fois et même beaucoup plus souvent.
Oh?
Oui. Au Canada, en majorité, des éclairs se produisent le plus fréquemment entre 13h et 18h.
Dans la journée.
Dans la journée. Moi, j'aurais pensé le soir, mais non, c'est dans la journée. Et juillet est le mois où l'on recense le plus grand nombre d'éclairs nuage-sol, des coups de foudre, au Canada. Selon les données d'Environnement Canada, je vais terminer là-dessus, recueillies dans un rayon de 50 km de l'aéroport international d'Ottawa, juin 2023 a été le théâtre de 3260 coups de foudre, c'est-à-dire près de trois fois le nombre de coups de foudre habituellement répertoriés en juin. C'est assez impressionnant.
Ben, c'est impressionnant, tu dis oui.
Attendez une petite seconde.
OK.
Juillet.
Ah, ça a été pire.
6066 coups de foudre dénombrés, atteignant presque le record mensuel de 6309 établi en août 2018. Fait que des éclairs, là, il y en a eu un méchant paquet au mois de juillet.
Oui, puis c'était pas des éclairs au chocolat ou à costard.
Non, c'est...
J'ai rien à faire.
Je sais pas comment, ça fait longtemps que j'ai pas mangé, puis j'adore ça. Un éclair au chocolat?
Ouf! Faire des éclairs au chocolat, à un moment donné, je vais apporter des éclairs au chocolat, puis je vais éclairer ta journée.
T'en as-tu déjà fait?
Ben non, mais je vais avoir des recettes à quelque part.
Okay.
Je n'ai pas les mains pleines de pouces, là, quand même.
C'est...
capable de faire ça. Ben, je pense, en tout cas. C'est le temps de faire une première pause et de revenir dans un instant. Je pense qu'on va traquer dans plein de directions.
Ah oui, ça va être le fun.
Alors, c'est le temps de marquer une première pause,
oui.
Un temps d'arrêt, et de revenir dans un instant avec une entrevue sur le Congrès mondial acadien. Restez des nôtres.
Restez en contact avec Le Contenir des infos.
Le Contenir des infos.
Écrivez-nous par courriel. pcdi@radiorfa.com.
Le Contenir des infos.
Ça a l'air de rien, là. Ça a l'air drôle à dire comme ça, mais les vacances estivales sont à peine terminées.
Oui,
il y en a peut-être parmi vous autres marqués au mois de septembre, là, qui est encore en vacances, mais de façon générale, ouais, chanceux, mais de façon générale, c'est derrière nous.
Oui.
Mais mine de rien, on est déjà en train de planifier ce qu'on va faire durant l'été 2024.
Oui, et faut dire, Simon, parce que le compte à rebours est déjà enclenché pour un événement toujours très attendu d'une édition à l'autre, là, et qui va se dérouler dans moins d'un an, au mois d'août 2024, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.
Alors, on parle évidemment, je pense que certains d'entre vous l'auraient deviné, oui, du fameux Congrès mondial acadien qui est organisé à tous les cinq ans depuis près d'une trentaine d'années, si je me trompe pas. Alors, c'est quoi le Congrès mondial acadien? Qu'est-ce qu'on y fait? Où et quand ça va se dérouler? On pose ces questions-là aujourd'hui à quelqu'un que plusieurs d'entre vous connaissez peut-être pour sa musique et pour, oui, sa plume, mais on va le recevoir aujourd'hui à titre de directeur de la programmation du Congrès mondial acadien 2024. Il est au téléphone avec nous, Marcel Aymard. Bonjour.
Et bonjour.
Marcel Aymard, d'abord expliquez-nous, c'est quoi le Congrès mondial acadien? On entend beaucoup parler de ça, et c'est quoi son importance, disons, dans la communauté acadienne?
Je pense que c'est une grosse importance, évidemment. Le Congrès, c'est comme... c'est une rencontre, c'est un call-out à tous les Acadiens sur la planète, disons, de venir célébrer à tous les cinq ans de toute la diaspora acadienne, de partout, évidemment des provinces atlantiques, mais aussi du Québec, l'Est du Canada, la Louisiane, la France, ça vient de partout. Puis ça se passe pendant la longueur, ça change tout dépendant chaque année, là. Mais dans le sud-ouest, ça va durer 9 jours. Et c'est une série de spectacles, de réunions de famille, de toutes sortes de genres d'activités rassembleurs le plus possible. Pour les gens qui ont des racines acadiennes ou qui sont même juste intéressés au fait acadien, ce qui est d'une façon ou d'une autre.
À quoi les gens qui vont se rendre là vont avoir droit comme événement et comme activité pour la prochaine édition?
Ben, c'est un peu il y a certaines activités qui sont un peu la tradition pour les congrès. Évidemment, il y a une grosse fête d'ouverture. Ici, ça va être genre un festival, on appelle ça le festival de la journée d'ouverture, très familial, des activités pour toutes les âges. Il y a 4 gros grands événements, je dirais, c'est l'ouverture, il y a la fête le spectacle de la fête nationale de l'Acadie, qui est le 15 août, évidemment. C'est probablement le plus gros spectacle qui va se passer pendant le congrès. Il y a aussi un spectacle, notre être en 2 parties de clôture. Ça, c'est des grands événements. Mais à l'intérieur de ça, il y a beaucoup... nous, évidemment, dans le sud-ouest, ici, on est vraiment en situation rurale. Comme ça, il y a beaucoup... Ils ont des centres communautaires, des légions, des petites salles communautaires. Et ça se passe dans 2 municipalités, en fait, dans le sud-ouest. Comme ça, il va y avoir beaucoup d'activités au niveau de spectacles, à tous les genres de disciplines artistiques et tout, pas juste la musique, mais aussi au niveau les arts visuels, la littérature, le théâtre, etc. Des réunions de famille qui est surtout qui a toujours une grande importance au congrès. C'est des réunions que ça donne la chance aux gens de connecter avec leur famille généalogique pour beaucoup. Ça va être pas mal, ça. Ça va être pour quelqu'un qui veut, je pense qu'il veut voir toutes les choses qui vont se passer au congrès, ça va être pas mal difficile de voir tous les événements parce qu'il va en avoir beaucoup.
Monsieur Aymard, vous êtes le directeur de la programmation. Vous êtes un peu un chef d'orchestre, on va dire. Hein. Je sais pas si la comparaison est pas pire. Là. C'est vous qui attachez les cordes un petit peu de tout ça. C'est quoi les principaux défis là, auxquels une organisation d'une aussi grande ampleur peut être confrontée? Hein? Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des gens qui viennent d'un petit peu partout de la diaspora acadienne. Quand on fait la préparation, quand on réalise un événement comme celui-là, c'est quoi les défis auxquels vous avez probablement, dans votre cas, été confronté? Est-ce que c'est de rapporter des artistes, trouver des gens pour les infrastructures?
Je dirais peut-être pour nous, tu sais, parce que le dernier, c'était en 2019, le dernier congrès, c'était plus dans la région. En fait, ça avait été en 2 parties, ça avait été dans la région de Moncton et dans certaines régions de l'île de Passe-Édouard aussi. Comme je disais, nous, peut-être les plus grands défis, c'est que c'est peut-être aussi au niveau des infrastructures, parce qu'on est, comme je disais, dans une situation rurale. Comme ça, pour certains des événements, on doit, tu sais, les adapter ou on doit trouver certaines solutions. Mais en même temps, ces défis-là, pour moi, je ne vois pas tant ça comme un défi. C'est sûr, bon, on peut appeler ça des défis, mais en même temps, moi, je veux ça comme un challenge. Et je vois ça un peu comme une façon de bien décrire c'est quoi la région. Pour moi, c'est surtout ce défi-là, c'est de comment refléter, comment montrer aux gens surtout des gens de l'extérieur, de c'est quoi, c'est qui on est dans le sud-ouest, dans la Nouvelle-Écosse, et de démontrer la façon qu'on est, les accents, évidemment, le manger, tout ça. C'est ce niveau-là, ça nous donne la chance de montrer comment ça se passe par ici. C'est sûrement que c'est différent que disons qu'on est en ville, quand on est en ville, par exemple. Mais c'est des défis. Moi, je ne fais pas beaucoup de défis. Évidemment, il y a des défis, je travaille fort. Je travaille longtemps. Mais c'est quand même ça s'en vient très bien.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des retombées économiques et touristiques probablement que la région va avoir là où se déroule le congrès?
Ouais, non, c'est sûr que c'est important à ce niveau-là. Oui. Il y a eu des investissements, c'est ça. Parce que même en temps normal, il y a beaucoup le tourisme, surtout en Nouvelle-Écosse en général, et les maritimes, c'est l'industrie du tourisme, c'est une très grande importance. Mm-hmm. Et il va y avoir un influx de gens de partout. Comme ça, c'est au niveau économique, c'est très très important.
Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes, par exemple, qui vont assister? Est-ce que vous autres, là, quand vous avez organisé ça, est-ce que vous vous êtes fait une idée? On va avoir tant de milliers de personnes ou si on prendra ce qu'il y aura?
C'est vraiment difficile à prédire. Hein.
Okay.
Dans le sens que on peut s'imaginer un peu là. Il y en a qui disent, 50 000, 30 000, okay. ou 10 000, je sais pas, on sait pas. Et là encore, tout dépendant, on peut toujours avoir toujours des surprises. Est-ce que toute l'histoire de la COVID va être finie? Est-ce que ça revient ou non? Est-ce que les gens vont toujours voyager? Là, on a vraiment marqué cet été, les gens qui travaillent dans l'événementiel ont vraiment marqué une grosse différence au niveau que cet été, les gens, je pense, d'un peu partout, ils sont revenus là pour les spectacles. Il y a beaucoup de spectacles, des festivals, c'est plein de gens. Après tout ce qu'on a vécu, les gens étaient vraiment finalement prêts à revenir, puis à sortir, puis à pas avoir peur de rencontrer, puis être parmi le monde. Comme ça, on espère que ça va continuer comme ça. Puis si ça continue comme ça, moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde qui vont venir dans la région.
En conclusion, là, où précisément dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et quand ça va se dérouler, ce congrès mondial acadien 2024? Comment on peut avoir des informations, là?
On peut aller sur le site web. C'est le site, moi, je dirais que c'est le plus facile.
Ouais.
Et aller sur le site web, c'est le cma2024.ca. Et toutes les informations sont là. On peut s'abonner à bulletin aussi qui sort, je pense, à chaque mois, qui donne toutes les nouvelles assez récentes, vous pouvez recevoir dans votre boîte de courriel. Mais ça se passe du 10 au 18. Le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, c'est trois municipalités finalement. La municipalité de Clare, Clare, de Argyle, et de Yarmouth. Mais c'est tout le sud-ouest. C'est le plus beau coin de la Nouvelle-Écosse, finalement.
C'est ça que j'allais dire, oui.
C'est très beau.
On va faire attention au Cap-Breton, là.
Entre autres choses, ou encore à la région d'Halifax.
C'est à exact à l'autre extrême du Cap-Breton.
Oui, c'est ça.
alors, du 10 au 18 août 2024, les gens, inscrivez ça à votre calendrier, ouais. Puis allez voir entre-temps sur le site Internet dont on a donné l'adresse il y a quelques instants. Il est le directeur de la programmation de ce grand congrès mondial acadien qui aura lieu l'an prochain en 2024 dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Marcel Aymard, merci beaucoup pour votre temps.
Merci pour votre intérêt. Merci beaucoup, les gars.
Peut contenir des infos.
Simon, j'ai manqué l'émission cette semaine.
Je
panique. Qu'est-ce que je fais?
Ben, écoute, si tu veux réécouter l'émission à laquelle tu as participé, mais d'après moi, t'étais pas là de corps, t'étais là que d'esprit, je sais pas trop. Quoique je te voyais quand même dans mon studio, mais c'est pas grave. Alors, ce que tu peux faire, est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent faire également? Je sais qu'il y a certaines de nos stations de radio qui ont l'émission en rattrapage sur leur site Internet. Mais sinon, on a un site Internet qui se consulte autant sur ordinateur que sur appareil mobile.
Oh, c'est bien ça.
Pas pire, hein? Tu sais, 2023, c'est un peu le minimum. Alors, et ça s'appelle nosradio.ca.
nosradio.ca. OK.
Puis, tu sais ce qu'on trouve là-dessus?
Non.
On retrouve...
Je suis jamais allé.
Toutes les radios de l'Alliance des radios communautaires du Canada.
Pas les 28.
La gang au complet.
Oh!
Donc, celle sur laquelle vous nous écoutez actuellement.
Oui.
Il y a des grosses chances qu'elle soit là-dessus. Et on a aussi une petite section qui s'appelle Balado.
Oh, c'est-tu bien fait?
C'est bien fait, rien qu'un peu. Alors, je sais pas qui a créé ça.
Je sais pas, mais wow!
Alors, balado, dans le menu de navigation en haut, sur votre téléphone ou encore sur votre ordinateur. Alors, vous allez dans la section balado et vous allez retrouver une semaine plus tard l'émission en rattrapage. Parce que on s'est dit, on va laisser l'exclusivité ou la primeur à nos radios membres de la diffuser en onde. Et puis après ça, si elles le veulent, de mettre ça sur leur site Internet. Et nous autres, après ça, on vous invite à venir sur nosradios.ca puis d'écouter l'émission en rattrapage si vous l'avez ratée ou si vous avez trouvé qu'on était tellement
bon que vous voulez la réécouter.
Vous voulez la réécouter. Et puis en même temps, une fois que l'émission est terminée, par exemple, vous dites « Ah ben, j'écouterais peut-être un petit peu de radio. »
Puis ce qui est le fun avec ce site-là, c'est que vous avez accès aux 28 radios.
Absolument. Donc, vous pouvez vous dépayser.
C'est ça, complètement. Là.
Vous avez le goût de rester dans votre région. Vous êtes, par exemple, de l'Atlantique ou encore de l'Ontario. Vous avez le goût de visiter votre province puis de faire le tour de vos stations locales ou provinciales. Ben, vous pouvez le faire, mais si ça vous tente de vous...
D'aller à Victoria.
À Victoria, en Colombie-Britannique. Ben, c'est ça, vous pourrez le faire parce que sur nosradios.ca, il y a évidemment les radios et notre contenu en rattrapage. Alors, on s'arrête pour une courte pause et on revient dans un instant. Restez branchés sur l'émission.
Peut contenir des infos.
Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
On le voit de plus en plus, François, les voitures fabriquées en Chine envahissent de plus en plus le monde.
Oui.
La Chine, ça va de soi, mais on les voit de plus en plus en Occident et à tel point qu'ils sont en passe de devenir, pour ainsi dire, le deuxième exportateur, c'est pas des farces, là, exportateur de véhicules de tourisme. Ils vont éventuellement dépasser, dit-on, les États-Unis et la Corée du Sud.
Et Simon, BID a construit son 5 millionième véhicule hybride et électrique au mois d'août.
Okay.
Et les compagnies Geely et Beidou, peut-être que notre invité pourra me dire si j'ai bien mentionné les noms, ils ont lancé Jiayu. C'est la 100e marque chinoise.
La centième.
OK. Je sais pas comment est-ce qu'on en a mais en Amérique du Nord, mais peut-être qu'on pourra poser la question à notre invité. Justement, pour nous en parler, on a invité notre chroniqueur et, bien sûr, expert, le vrai gars de char, Monsieur Marc Bouchard. Bonjour, Monsieur Bouchard.
Bonjour à vous.
Ça va, Marc?
Ça va super bien.
Oui. J'étais-tu pas pire dans mes noms?
En fait, le seul précision qu'on peut apporter, c'est que BID, en fait, ça veut dire Build Your Dream.
Okay.
C'est BYD.
BYD, oui, c'est ça. OK.
Alors, ça veut dire Build Your Dream. C'est vraiment un nom américain pour une compagnie chinoise qui est un peu amusant.
OK, ben l'idée, donc, c'est de conquérir le monde en ayant un nom anglais.
Clairement. Et déjà, oubliez les voitures électriques, il y a plusieurs années déjà, ces compagnies-là, Geely, BYD et d'autres, ont participé au salon de l'auto à Détroit, notamment.
Ah oui, hein?
Ouais, ils avaient présenté des véhicules dont la qualité était, si on veut être poli, douteuse.
OK.
c'est la première fois, entre autres, qu'on voyait des voitures avec des disques aux freins arrière et des tambours aux freins avant.
OK. OK, ça ressemblait-tu un peu à Lada, les premières Lada qu'on avait eues au Canada?
Ouais, c'était vraiment terrible. Écoutez, je me rappelle qu'il y avait une voiture en exposition et je suis avec un collègue qui est assez imposant en termes de dimension. Et il s'est juste accoté la main sur la valise et l'amortisseur arrière a décroché.
OK, wow!
Oups!
Ça donne une petite idée.
Oups! Marc, il y a quelques années, on entendait très peu parler des voitures chinoises. Maintenant, ils font la manchette à peu près à chaque semaine. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène-là?
Ben, ça fait un peu partie de ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que quand ils ont commencé, les Chinois présentaient des véhicules qui n'avaient pas les qualités nécessaires pour vraiment être en mesure de se développer internationalement. Depuis, ils ont beaucoup appris parce qu'ils ont fabriqué beaucoup de véhicules sous licence. Les BMW, Volvo de ce monde. Et au fil des ans, sont devenus propriétaires de certaines compagnies. C'est le cas de Volvo notamment, qui appartient à Geely. Donc, on a développé des méthodes de fabrication qui se sont nettement améliorées. On a investi des sommes incroyables dans le développement de nouvelles technologies comme la technologie électrique, et ils arrivent avec des technologies qui sont même en train de dépasser les autres. Si vous regardez récemment, la compagnie NIO a présenté un nouveau type de batterie qui se recharge plus rapidement, qui se recycle plus facilement et qui pourrait aller jusqu'à 1 km d'autonomie.
Mais ils sont comme ça, les Chinois, Marc. Je veux dire, moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais acheté un téléphone Android chinois, là. C'était, il y a une belle lurette. C'était de la cochonnerie, là, mais ça ressemblait à toute fin utile à un iPhone, si bien que j'étais dans l'autobus à un moment donné, puis quelqu'un me demandait, c'est-tu un iPhone? Et aujourd'hui, je veux dire, même dans ce domaine-là, on le voit, ils apprennent rapidement, ils acquièrent de l'expertise, et aujourd'hui, je veux dire, ils sont devenus aussi très, très bons, là, dans différents domaines, dont celui-là. Donc, c'est pas étonnant, en quelque part, qu'ils reproduisent un peu ce succès-là dans le domaine de l'automobile.
Totalement. Et bon, écoutez, c'est un grand pays avec beaucoup de monde. Ils font beaucoup de recherches. Donc, clairement, ça leur permet d'évoluer rapidement. Et parce qu'ils ont un niveau interne de marché qui est suffisant pour défrayer leurs coûts, ben ça leur permet après de s'étaler internationalement après avoir absorbé les coûts de développement.
Okay.
Donc, ils vendent des tonnes de véhicules chez eux. Ça leur permet de rentabiliser les opérations déjà. Et puis, par la suite, ça leur permet d'aller au niveau international. Pour le moment, ils sont en Amérique du Nord. Mais attendez 5 ans, on s'en reparle.
OK, 5 ans. Si vite que ça, là, dans 5 ans, on pourrait voir les Chinois là, envahir le marché.
Clairement. Envahir est peut-être un grand mot parce que, évidemment, les grands fabricants nord-américains vont essayer de résister. Mais ils vont arriver comme un rouleau compresseur, ça va être fou. Et parce qu'ils arrivent avec des... La question, en fait, qu'il va falloir voir, c'est quel genre de véhicule ils vont être en mesure de proposer. Parce que on le sait, le marché nord-américain est assez particulier. Donc, ça devrait normalement être des véhicules assez imposants. Mais pour le moment, on n'est pas tout à fait dans ce monde-là du côté chinois. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Le fait que les compagnies américaines qui voulaient vendre des voitures en Chine devaient s'associer à des compagnies chinoises, à un moment donné, ça a dû les aider aussi, je veux dire, à apprendre les technologies et tout ça de l'automobile.
Ben, c'est ce que je disais, en fait. C'est comme ils fabriquaient des véhicules sous licence, et c'est vrai avec les Chinois, mais c'est vrai ailleurs aussi. C'est notamment le cas, par exemple, de la compagnie VinFast au Vietnam, qui a fabriqué pendant quelques années des BMW sous licence. Et évidemment, ben ils ont appris. Et aujourd'hui, les véhicules VinFast sont inspirés librement des BMW.
Est-ce qu'il y a des avantages aux véhicules chinois? Je veux dire, comparativement à ce qu'on fait, par exemple, ici en Amérique du Nord, chez nos manufacturiers ou encore les manufacturiers européens, ce serait quoi, tu dirais, toi, l'avantage de lorgner? Je dis pas nécessairement de passer de la parole aux actes, là, de penser s'acheter un véhicule chinois puis d'aller chez le concessionnaire puis d'en acheter un, mais ne serait-ce que de réfléchir à acheter un véhicule chinois, ce serait quoi leur avantage, on va dire?
Ben, pour le moment, il y en a pas.
Okay.
Éventuellement, ça va être le volume. On va parler de compagnies qui vont fabriquer des millions de véhicules de certains modèles spécifiques qui devraient donc être en mesure d'avoir des coûts de production plus bas et, souhaitons-le, des prix de vente plus bas au niveau, entre autres, du développement technologique. Donc, ça devrait être ça, la première démarche. Après ça, ben, il va falloir voir comment les compagnies veulent se développer. Parce qu'actuellement, on le sait, il y a plusieurs start-up en Amérique du Nord qui veulent arriver avec des nouveaux modèles, avec des nouvelles compagnies. Mais c'est pas toujours un grand succès. On a pensé le faire comme Tesla uniquement en ligne. Finalement, on se rend compte de plus en plus que ce modèle d'affaires-là ne fonctionne pas chez nous. Donc, ça va dépendre évidemment comment ces compagnies-là vont se développer au fil des ans. Mais pour le moment, il est trop tôt pour le dire. Ce qu'on dit cependant, c'est qu'ils vont arriver avec une technologie qui va être efficace, avoir été éprouvés chez eux et qui, à cause du volume de fabrication, devrait être moins dispendieuse.
Considérant que le prix d'un véhicule neuf moyen au Canada dépasse 66 000 $, ce serait pas une bonne affaire que la Chine exporte ses véhicules au Canada pour essayer justement de stabiliser ou en tout cas revenir à un niveau qui serait un peu plus acceptable, mettons?
La question, c'est est-ce que le prix de vente des voitures reflète uniquement le coût de fabrication ou s'il reflète tout le modèle nord-américain d'affaires qui veut que les compagnies soient le plus rentables possible?
OK, je te pose cette question-là.
la réponse actuellement, elle est difficile à dire. Je vous donne l'exemple de Ford.
Oui.
Ford vend des voitures électriques. Ils ont créé leur propre division électrique. Et là, ils nous disent qu'à chaque fois qu'ils vendent un véhicule électrique, ils perdent 20 000 $. Ce qui est peut-être pas faux.
Ah ouais, hein?
Mais faudrait voir comment ça se traduit dans la réalité.
Mm-hmm.
Combien ils font d'argent avec un F-150, par exemple?
Oui.
Ouais. Il y a un gros
montant. Parce que là, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont divisé ça.
Marc, il y a quand même, quand on achète un véhicule, là, il y a quand même un gros montant qui va dans tout ce qui n'est pas nécessairement l'automobile à proprement parler. Je veux dire, un réseau de concessionnaires, de la publicité à la télévision, du marketing, de la présence dans des salons, des trucs du genre. Je veux dire, ça aussi, c'est une grosse composante dans le prix des véhicules qu'on paye en Amérique du Nord. Je me trompe ou pas?
C'est vrai. C'est absolument vrai. Mais ça va toujours être vrai.
Okay.
Et ouais, peu importe la compagnie.
Mmh. Okay, donc ça,
parce que plus la concurrence va être féroce, plus il va falloir se distinguer d'une certaine façon. Et au-delà du marketing et des réseaux de distribution, il n'y a pas vraiment d'autres méthodes. Là.
OK, donc en clair, les Chinois, même eux autres, ils n'auront pas le choix s'ils veulent envahir le marché.
Il va falloir qu'ils fassent la même chose.
Il va falloir qu'ils fassent la même chose. OK.
Exactement. Et comme je vous disais, la grande question, ça va être de voir vers quel type de réseau de distribution ils vont se tourner.
Mmh.
Actuellement, Genesis nous avait dit, par exemple, on va faire ça tout en ligne. Si vous nous appelez, tout peut se faire en ligne. On peut même vous envoyer votre manuel de l'utilisateur sur un iPad. Mais aujourd'hui, Genesis a construit une concession à Montréal, à Laval, une à Québec, une à Sherbrooke. Et là, ils sont en marché d'en ouvrir une à Trois-Rivières, au Québec seulement. Alors qu'auparavant, on parlait de trucs qui étaient strictement virtuels. Donc, c'est sûr que ça change. C'est pour ça que je vous disais, le modèle nord-américain est un peu différent de ce à quoi on s'attendait il y a quelques années. On garde les concessions alors qu'on pensait ne plus en avoir besoin. Ça va faire partie de la grande interrogation. Est-ce que les Chinois vont devoir se développer un réseau complet de distribution chez nous? Si c'est le cas, c'est beaucoup de sous.
Oui.
Est-ce que ça va valoir la peine compte tenu du volume? Parce que rappelons quelque chose. Il se vend 1,5 million de voitures neuves au Canada par année.
Ouais.
Il s'en vend à peu près, je dirais, 18 millions aux États-Unis.
Ouais.
Fait que le marché canadien n'est pas nécessairement le premier choix
de ceux
qui veulent développer les entreprises.
C'est bon, on n'est pas un gros marché au Canada. On est un gros marché en Amérique du Nord.
Ouais, mais en fait, on est plus petit que la Californie.
Ouais.
En termes de vente.
Non, mais je veux dire, si tu regardes l'Amérique du Nord, c'est correct, on est un gros marché, mais juste le Canada tout seul, je veux dire, on compte pas pour grand-chose.
Effectivement. Ouais. Non. Par contre, il y a des compagnies où on est extrêmement important. Je vous parlais de Genesis, par exemple. On est un des pays où ils ont la plus grande part de marché.
Ah.
Alors, okay. Pour Genesis, le Canada, c'est important, pas en termes de volume, mais en termes d'image et en termes de dire, regardez, on est présent et on est capable de faire vivre une marque dans un milieu relativement riche. Donc, ils se servent de nous autres comme exemple.
Ouais. Alors, ce sera surveillé dans un horizon de, Marc Bouchard semble dire, quelque chose comme 5 ans. On pourrait voir arriver sur le marché nord-américain les véhicules chinois. Qu'est-ce que ça vaudra d'ici là? Grosse chance qu'ils s'améliorent. Hein? C'est pas mal toujours leur façon de procéder. Ils apprennent, ils grignotent les parts de marché, puis à un moment donné, ils arrivent, puis ils nous clenchent à toute fin utile.
Ouais, c'est à peu près ça, oui.
Alors, dans un horizon de 5 ans, on verra ça probablement des véhicules chinois sur nos routes.
Ouais.
Merci. Ben, en tout cas, c'est ce qui se dessine. Et écoutez, soyez vigilants parce que s'ils ne le font pas sous leur nom, Ils vont probablement s'associer à des startups déjà existantes et ça se pourrait qu'ils arrivent même avant ça.
Ah oui,
bien dit. Mm-hmm. Marc Bouchard, le gars de char, si on veut avoir davantage d'informations, si on veut suivre le domaine de l'automobile, on le fait de quelle façon, Marc?
Ben, la meilleure façon, c'est d'écouter notre balado-diffusion, gars de char, qui est disponible sur toutes les plateformes, ou de suivre sur Facebook gars de char Podcast ou Marc Bouchard. Et de me poser toutes les questions que vous voulez, je réponds avec plaisir.
Et il y a plein d'informations sur ton site web aussi, marcbouchard.ca.
Effectivement.
Merci beaucoup, Marc.
Merci.
Merci à vous. Bye bye.
Salut, à une prochaine.
Peut contenir des infos.
Quiz.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz.
Le quiz.
C'est devenu notre rendez-vous incontournable d'une semaine à l'autre, même si dans les faits,
oui,
c'est juste la deuxième semaine.
Mais on en aura toute la saison.
C'est exactement. Voilà.
Juste
le quiz.
Vous.
Le fameux quiz.
Le fameux quiz.
De plus contenir des infos. Où, ça a l'air de rien, mais on apprend de façon ludique par le jeu. C'est comme la petite école, François. Tu te souviens quand la professeure
elle disait,
les enfants, j'ai des questions, puis là, le premier qui lève la main, ben c'est ça.
C'est ça.
Okay. C'est
un quiz. Faut-tu que je lève la main?
Non, pas besoin.
Non, OK.
Les gens à la maison non plus, parce que si vous êtes dans l'auto, puis vous levez la main.
Ouais, c'est ça. Ça,
ben,
ça, non, ça va être l'air
un peu tata. c'est un quiz sur les océans aujourd'hui.
Les océans. Bon.
Bon, OK.
Ouf, attends une minute.
L'océan
Atlantique.
OK, on commence là. Le premier, première question.
Oui.
Quel est l'océan le plus grand et le plus profond de la planète étant un choix de réponse?
OK. D'accord. Fiouf.
A, l'océan Atlantique.
OK.
B, l'océan Indien. Ou C, l'océan Pacifique.
Le plus profond, hein?
Ouais.
Je vais y aller avec le Pacifique.
Ben, t'as bien raison.
Oui.
Oui, la réponse, c'est C, l'océan Pacifique.
Okay.
C'est à la fois le plus profond et le plus étendu de la planète. À lui seul, mm-hmm. l'océan Pacifique couvre environ un tiers de toute la surface du globe. Que le Pacifique.
Un tiers?
Un tiers de la surface du globe est entièrement recouvert, par le Pacifique.
Ah, honnêtement, là, j'aurais pas pensé ça.
Ben, déjà, en
partant, savais qu'il était gros, là, mais
Immense. Immense. Quel est le plus grand récif corallien au monde? Parce que, tu sais, c'est un quiz sur les océans, mais qui dit océan dit récif de coraux.
Oui.
Alors, A, la grande barrière de corail, B, le récif de la mer Rouge, ou C, le récif de l'Atlantique?
Je vous dirais A.
Ben oui, la grande barrière de corail. Pas mal de gens la connaissent de toute façon. C'est le plus grand récif corallien au monde. Ça s'étend sur... Tu es bien assis, là?
Ouais.
2300 kilomètres. C'est du corail, là.
Oui.
C'est tous des coraux qui sont amalgamés ensemble. Ça part de l'Australie et ça s'en va jusqu'à la péninsule du Cap York en Afrique du Sud.
Okay,
c'est loin, là. Mm-hmm. En superficie, là, on dit que ça fait 344 400 kilomètres carrés. Et cette grande barrière de corail est inscrite depuis 1981 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, faut la protéger.
Il faut la protéger et je vous dirais que le réchauffement climatique ne va pas l'aider.
Non, certainement pas,
non.
Comme pas mal d'autres choses aussi.
Oui.
Tu sais, on disait tantôt que le Pacifique recouvre à lui seul environ un tiers de la surface du globe. La surface de la Terre est recouverte par les océans.
Oui.
Dans quelle proportion? À peu près 50%.
OK.
Environ 70% ou approximativement 90%.
On a appris ça à la petite école.
Ben oui.
Je le sais. Je pense que c'est 70.
Exact. T'es bon. T'es correct.
Ben, c'est pas pire. Mais...
Tu pensais que t'allais être pire que ça. Tu te sous-estimes.
Parce que je m'attendais à ce que tu m'envoies des balles courbes.
Ouais, ben non, ben, je me suis dit. Ben, en même temps, je pense aux gens qui sont à la maison.
Okay,
on veut apprendre, mais on veut pas non plus, si on joue en gang avec les collègues de bureau ou quoi que ce soit du genre, on veut pas avoir l'air trop épais. Alors,
70%.
70%. Ben, ouais, okay. C'est ça. Quel est l'océan le plus froid du globe? Est-ce que c'est l'Arctique? Est-ce que c'est l'océan Austral, qu'on appelait jadis l'Antarctique, parce qu'il s'appelle plus l'Antarctique, en
passant,
ou c'est l'océan Atlantique? Lequel qui est le plus froid du globe, selon toi?
Moi, je dirais l'Antarctique.
Exact, l'océan Austral.
Oui.
Alors, qui était connu jusqu'en 2000 comme l'océan Antarctique. Hein,
mais nous, on l'a appris comme l'océan Antarctique.
Alors, l'eau à sa surface est d'environ, c'est spécial, tu dis comment ça se fait, moins 2 degrés Celsius.
Moins 2?
Ouais. Puis l'eau gèle à zéro.
Uh-huh.
Alors, c'est inférieur au point de congélation de l'eau, ce qui est assez particulier. Mais c'est qu'il y a tellement de sel marin qu'il y a comme une espèce de mouvement. Ça fait que l'eau peut demeurer liquide, même à de pareilles températures. Mais si vous vous saucez le doigt dans l'Antarctique...
Attends. Non.
C'est
cool. Moi, je ferais pas ça.
Il y a des...
les polar bears,
c'est ce que j'allais dire. La Colombie-Britannique, je pense, ou dans ces coins-là, entre autres, qui font ça. Puis il y en a d'autres.
Il y en a un peu partout, oui. Non, moi, je ferais pas ça. Honnêtement, là, il y a déjà quelqu'un qui m'avait demandé, ça te tenterait-tu? Sais-tu quoi? Moi, j'aime franchement mieux le bain tourbillon, là, tu sais.
Ouais.
Bon, T'sais, en hiver, là, moi, ça m'accommode un peu plus que...
J'aime pas les extrêmes, mais mettons qu'à choisir entre l'eau glacée et l'eau très, très chaude,
ouais.
Je suis plus dans le très chaud, moi.
Ouais, moi aussi.
Je veux que les gens qui rentrent dans la salle de bain quand je suis en train de prendre une douche,
ouais.
Il y a de la brume à tailler qui se rend au couteau, là, tellement il y en a. Fait que je suis un petit peu là.
Mais en vieillissant aussi, je veux dire, on aime un petit peu plus la chaleur que le froid.
Ouais, ça se peut.
On a froid plus vite.
Je sais pas, je suis pas rendu vieux, man. Et je conclurai avec ma dernière question. Combien existe-t-il?
Comme ça te mal, ça, un peu.
Fallait pas te sentir. Non, ne vous sentez jamais attaqué, mon très cher. Jamais.
C'est des non, fois, mais c'est parce que tu me regardes en le disant. OK, donc?
Combien existe-t-il d'océans sur Terre? 4, 5 ou 6?
À 6.
Ben, la question continue de faire débat. Il y a une pogne un peu là-dedans. OK? Officiellement, on dit qu'il existe 5 océans sur Terre.
Alors, il y a on a appris 5.
Ouais. Il y a le Pacifique, il y a l'Atlantique,
oui.
Il y a l'Indien,
oui.
Il y a l'Austral, uh-huh. Et il y a l'Arctique.
Oui.
Donc, la réponse, ce serait B. Mais il y en a d'autres qui disent que l'océan Austral ou l'océan Antarctique,
oui.
C'est pas en réalité un océan, disent-ils.
OK.
C'est juste la prolongation des eaux de l'océan Pacifique qui sont simplement plus froides que ce qu'on trouve ailleurs. C'est leur prétention. Alors, la réponse dans ce cas-là serait A, 4.
4.
Mais
okay.
Généralement, on admet qu'il y a 5 océans. Ouais. Alors, pour te dire...
Moi, je pensais
dire...
qu'il y avait un débat pour un sixième.
Non, le débat, c'est entre le 4 et le 5, surtout, okay. Parce que l'Organisation et ça fait tellement encore débat aujourd'hui que l'Organisation hydrographique internationale, qui est ce qui régit un petit peu le monde des courants marins et tout ça à travers le monde, ça fait juste depuis l'année 2000 que d'abord le nom d'océan Austral comme tel est reconnu. Oui. Là, et ce n'est que depuis le 8 juin 2021.
OK, fait pas longtemps, là.
Que l'océan Austral a été officiellement reconnu comme 5e océan par la National Geographic Society à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan. Et la National Geographic Society, c'est elle qui est un peu le maître d'œuvre des cartes géographiques sur la planète. Puis eux autres, ça fait juste depuis 2021 qu'ils ont dit officiellement, oh, c'est correct là, l'océan Austral, l'océan Antarctique, c'est un vrai océan. Il y a suffisamment de courants marins et de trucs du genre pour qu'on considère que c'est un océan et non la simple prolongation, on va dire,
de l'océan Pacifique. OK. Mais tu sais, quand on était plus jeune, puis on est à l'école, on avait nos cartes ou les globes, là.
Oui.
Les globes terrestres. OK, mais
oui.
Il y en avait 5 là-dessus.
C'était
là.
Écrit ça sur
C'était les... écrit. C'était bien écrit, l'océan Antarctique.
Ouais, mais tu sais, la science en soi, c'est toujours une perpétuelle remise en question, hein.
Oui, certains.
Par exemple, qui vont dire que Pluton n'est pas une planète.
Mais
il y en a d'autres qui vont dire que, ben oui, c'est une planète. Alors, oui. Tu sais, ça continue à faire débat, ça aussi. Puis c'est un petit peu ça, la science.
C'est une planète naine.
Oui, quelque chose dans le genre.
Et ils l'ont reconnue comme une planète naine.
OK.
Oui. Bon. En tout cas. Moi, je vais te parler d'une étude, mon cher, qui va te faire tomber en bas de ta chaise.
À ce point-là?
À ce point-là. Écoute bien ça, là. C'est sérieux, là.
Je suis tout-oui.
OK, c'est hyper sérieux, mon affaire.
T'as entendu, je suis tout-oui.
Oui.
Je suis tout-oui.
Tu sonnais comme Louis de Funès.
Ah oui, vraiment?
Okay. Les personnes qui ont l'habitude d'envoyer des textos tout en marchant sont plus susceptibles de tomber. C'est la conclusion à laquelle en vient une étude hyper sérieuse menée par l'Université de Nouvelle-Galles du Sud qui a mis à l'épreuve de jeunes adultes.
Ah, il y a des...
Il y a vraiment une étude qui a été faite là-dessus, Simon, là, pour dire, OK... Si tu textes, là, comme on les voit tous quand on marche, là, quand on s'en vient au bureau le matin, là,
la tête marche,
c'est ça.
Moi, je suis pas capable.
Je sais, moi non plus, là. Et moi, faut que j'arrête.
Faut que j'arrête, puis là,
je vais texter, puis après ça, je vais recommencer à marcher, mais non. Mais ils ont fait cette étude-là parce que les jeunes d'aujourd'hui sont capables de faire 10 choses en même temps.
Ben, les est-ce qu'ils les font toutes correctement?
Correctement, pas nécessairement.
Ah, c'est un autre débat.
C'est ça. Mais ils peuvent faire beaucoup de choses en même temps.
Ah, je suis capable de mâcher de la gomme puis de marcher en même temps.
Ah ouais.
Puis de mettre mes mains dans mes poches, puis de jouer avec mes clés.
T'es pas sérieux?
Moi, je suis multitask de même.
Wow!
Wow, c'est pas pire, hein? Mais texté, je suis pas capable de parler. Ça demande un petit peu trop de concentration.
Mais ils ont fait cette étude-là justement pour essayer de prouver que même si les jeunes ont cette capacité de faire plusieurs choses en même temps, faire du gros multitasking, non.
Il y a des risques.
Il y a des risques et effectivement, cette étude-là l'a prouvé. Les personnes qui marchaient en même temps qu'elles envoyaient des textes, des messages textes, essayaient d'être plus prudents.
Oui.
OK?
Mais ça marche pas.
Mais non, ça enlevait pas les risques de chute, malheureusement. Donc, ils ont réuni un paquet de jeunes, 50 jeunes, et ils les ont mis en deux groupes, puis ils ont fait faire, s'en aller comme marcher, puis là... S'en allait, puis il avait mis des tuiles qui étaient un peu lousses sur le sol.
Aha.
OK? Juste pour voir, tu sais, comment est-ce qu'il allait réagir, son corps allait réagir. Puis effectivement, ils sont tous pétés à
trébuchet.
Ben
ouais,
oui, trébuchet. C'est bien normal. Là.
Ben oui.
Alors, tout ça pour dire que oui, vous êtes capable d'en faire peut-être plus que nous autres, on est capable d'en faire. Mais texter en marchant, c'est pas une bonne idée.
Ben, puis il y aura toujours la possibilité d'avoir des obstacles qui vont se dresser sur votre route.
Exactement.
Tu marches, par exemple, puis je sais pas, moi, tu as les yeux rivés sur ton téléphone, puis d'un coup, il y a une espèce de fil de fer qui est tendu pour avec une espèce de petit drapeau au milieu juste pour délimiter un carré.
Ton œil le voit pas, là.
Ton œil le voit pas, alors tu es susceptible de trébucher dedans.
Ben oui.
Mais je pensais pas que des chercheurs universitaires allaient aussi loin dans leur recherche que d'essayer de nous démontrer ce que entre vous et moi, ce dont je me doutais déjà pas mal.
Ben, j'aurais pu vous dire la conclusion de l'étude avant qu'elle soit faite.
Mais
là.
C'est quand même. Mais au moins, c'est des.
C'est prouvé là.
Scientifiquement.
Là, c'est exactement. Alors, quand tu vas dire à ton jeune, c'est pas une bonne idée. Regarde, il y a une étude qui a été faite.
Lis ça, là.
C'est ça.
Voir, là. Ça tient sur une page et demie ou deux, je sais pas trop. Puis, quand les chercheurs universitaires te disent que c'est dangereux de texter en marchant, démonstration
la
est
preuve
faite
est là.
Par l'exemple.
C'est ça.
Est-ce que c'est déjà la fin de l'émission?
Non.
Mais non,
ça me tente pas.
Non, je sais, moi non plus, ça me tente pas, mais c'est parce que si on veut mettre en boîte une prochaine émission, la semaine prochaine, et toute bonne chose à une fois.
Et vous revenir avec un quiz.
Et vous
un autre quiz.
Et c'est toi qui vas faire le quiz, parce qu'on a le temps.
Tiens-toi bien, parce que tu vas en avoir pour ton argent.
Accroche-toi après les oreilles à papa, comme on dit.
Oh, yeah.
OK. Alors, passez une bonne semaine.
Oui.
Merci d'avoir été là. Et puis, retrouvez-nous la semaine prochaine pour une autre édition de
Peut contenir des infos. Bonne semaine.